C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler slow content et pour ça, je suis avec Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, salut à tout le monde. Oui, aujourd'hui, moi, tu vois, je me demande, est-ce que toi, des fois, ça t'arrive aussi, Thibaut, d'avoir un peu cette envie de partir, partir de la ville, de tout ce qui va trop vite, là, de devoir se lever tôt, se coucher tard, voir tout le monde et vivre un peu la slow life à la campagne, tranquillement.
De se lever avec le soleil, de se coucher avec les poules.
Voilà, je veux dire, c'est pas pour ça qu'on va se lever plus tard, on va sûrement se lever plus tôt à la campagne, mais vivre tranquillement, sans la pression de la ville, sans le brouhaha tout le temps en général, des voitures, des bus, des scooters, de tous les véhicules qui tournent autour de nous, d'être un peu plus tranquille. Est-ce que ça t'a jamais un peu tenté?
Ça m'arrive de temps en temps. Je dois bien l'avouer, ça m'arrive de temps en temps, notamment en vacances.
Ouais, juste quand tu rentres dans ta Haute-Savoie natale, que tu montes dans ton petit village de montagne là, et que tu te lèves le matin, que tu vois le calme, la montagne devant toi, je suis sûr que des fois tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous à Lyon?
Oui, ça m'arrive. Bah oui, comme dirait ma grand-mère, tout va trop vite. Hein. Tout va trop vite, aucun doute. Les amis, on est entré dans une heure de l'infobésité, hein, pour revenir à notre sujet qui est celui du social media. En gros, overdose de stories, overdose de live, overdose de snack content. Et en face de cette vague de contenu en continu, eh bien, certaines voix s'élèvent en faveur du slow content. Et ça va être le sujet du jour, on va parler de ça.
Oui, quelque part, un peu une contre-culture par rapport à la mode de ces dernières années avec la naissance des réseaux sociaux et qui a tout entraîné sur son passage, hein, parce que depuis, ça ne s'est pas arrêté qu'aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que les chaînes de télévision fonctionnent pareil. On a les chaînes d'infos continues avec que de l'info très chaude qu'on traite très peu en profondeur. Donc cette espèce de infobésité, comme tu as dit, d'infos en continu, en permanence, on reçoit de l'information. Voilà, je pense que Twitter, par exemple, est un bon exemple de cette manière-là de fonctionner, avec très très peu de caractères, donc difficile de trouver des contenus très profonds ou des contenus froids sur Twitter, ou alors des relais, des liens, mais sinon beaucoup 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 de petites infos qui nous servent pas forcément toujours à grand chose.
Alors, qu'est-ce que c'est le slow content? Eh bien, c'est une philosophie qui est dans la veine du mouvement slow food, hein, qui est un mouvement...
italien, né dans les années 80.
Exactement. Alors, c'est prendre le temps de bien cuisiner. C'est un mouvement qui était né un peu face à l'émergence du fast-food à l'époque et un certain nombre de chefs italiens et même de producteurs de légumes, de beaux produits avaient décidé de monter ce mouvement, la slow food. Le slow content, c'est un petit peu la même chose, c'est un peu dans la même veine. C'est en réaction effectivement au snack content, au fast content que le slow content se présente.
Si je peux essayer de résumer ça, c'est un petit peu... tout ce qui est la slow food, la slow life et même le slow content qui rentre un peu dans la même philosophie, c'est l'idée de se dire on veut vivre bien, on veut vivre tranquille, on veut pas se stresser, on veut pas être oppressé par le fait de tout devoir faire trop vite. On veut prendre le temps de faire les choses bien et c'est ça qui nous permet de bien vivre.
Qui va piano va sano.
Si, à la montagne.
Donc voilà, et effectivement, il semblerait qu'il y ait un temps en dehors de l'instant et on assiste effectivement à des réflexions, en tout cas émergent des idées avec un retour au temps long. Alors qu'est-ce que c'est exactement le temps long? C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est prendre le temps de construire. Alors attention, on va le dire tout de suite, hein, il ne s'agit pas de faire l'impasse sur les contenus éphémères, les stories, les contenus plus courts et de plus jamais publier sur Insta, mais plutôt de considérer qu'il y a un temps en dehors de l'instant présent et qu'il y a des enjeux qui dépassent les flux exclusivement algorithmiques qui nous sont imposés par les plateformes sociales. En gros, c'est rapatrier la logique de temps long dans sa présence de marque en ligne et réfléchir à plus long terme dans sa stratégie de marque et de stratégie de contenu.
C'est sûr qu'avoir une stratégie sur le long terme, donc qui revient un peu à dire sur le temps long aussi, c'est de manière différente de le dire, ça va obliger, en fait, et ça devrait être obligatoire, parce que les réseaux sociaux, c'est une mémoire éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, à partir du moment où vous postez des choses, vous avez une certaine communication sur les réseaux sociaux, ça ne s'oublie pas.
Ouais,
ça reste,
certains en ont fait les frais.
Certains en ont fait des screenshots, et certains, du coup, en font les frais quand ils se contredisent un an et demi plus tard, ou ils disent totalement le contraire de ce qu'ils ont dit un an et demi plus tôt. C'est le cas chez les politiques, normalement. On le sait, c'est quelque chose de très connu dans le monde politique, où on voit des hommes politiques avec des très beaux montages qui se contredisent tous les 6 mois. Donc, pour une marque, et pour une marque qui est présente sur les réseaux sociaux, il y a une vraie importance dans la stratégie de construire une stratégie sur le long terme et de ne pas changer le cap tous les ans, tous les mois de janvier, en disant « Ah, allez, on change d'agence » ou « Ah, allez, on change de cap, on repart sur quelque chose de nouveau » et de faire quelque chose de complètement contradictoire. Bien sûr qu'il peut y avoir des réajustements, bien sûr que... mais il faut qu'il y ait des explications à ça. C'est-à-dire que quand on communique sur les réseaux sociaux, il faut que l'audience et que les gens qui soient touchés par cette communication de marque comprennent pourquoi il y a eu des changements de cap. On ne peut pas dire un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, ce n'est pas possible.
Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a effectivement une sorte de déviance hein, quand même aujourd'hui, excuse-moi, j'utilise un gros mot, en communication de marque, qui est celui du raccourcissement assez extrême du temps accordé aux stratégies de com. Pour moi qui suis dans la partie depuis quelques temps, il y a quelques années encore, les plans de com que les marques ou les briefs qu'on nous donnait, il y avait vraiment une vision avec un horizon à 3-5 ans. Hein, c'était quand même classique quand tu faisais une stratégie de communication, s'inscrit, elle avait vocation à s'inscrire dans un temps relativement long, qui est celui de 3 à 5 ans. Et aujourd'hui, il y a une sorte de confusion quand même, une tendance à la confusion entre le plan d'action annuel et le plan de communication d'une marque.
C'est sûr que moi, je le vois aujourd'hui quand on reçoit des briefs de marque. La plupart des briefs, c'est sur une vision des 1 an. Alors effectivement, il y a une mise en place sur 1 an avec une agence, avec une stratégie, en tout cas une mise en place d'un plan éditorial sur 1 an, mais il y a rarement une vision dans des briefs. Voilà, on est dans une stratégie de 5 ans, là, où on est en train de parler de ça, on est en train de développer ça, et c'est les choses une lame de fond qu'on veut mettre en avant durant ces 5 ans. C'est pas, et ça doit rentrer dans notre plan éditorial de l'année. C'est pas juste, voilà, cette année, on parle de ça, puis on verra bien l'année prochaine.
Ouais, c'est ça. Parce que le plan d'action annuel, lui, il a vraiment vocation à définir les tactiques, les dispositifs, les actions, et puis à mettre un prix en face, à un chiffré et à organiser les actions qu'on va envisager dans l'année. C'est très différent finalement d'un plan de communication de marque qui, lui, s'inscrit dans une durée, dans un temps long et dans une logique de cohérence. Hein. C'est ce que tu dis, on évite de faire les girouettes parce que sinon, son message de marque, il peut complètement être petit à petit se dissoudre, quoi. Hein.
Et puis je trouve qu'on sous-estime la mémoire collective parce qu'on se dit les réseaux sociaux, comme c'est un peu l'heure du contenu éphémère avec les stories par exemple, ou même on se dit genre ouais, mais on publie une publication tous les jours ou tous les 2 jours sur Facebook ou sur Instagram, qui va se souvenir de ce qu'on a publié il y a 8 mois ou il y a 1 an? Mais si, en fait, puisque rien ne disparaît, même si vous effacez un post, ce post il a pu être screenshoté comme on disait tout à l'heure, et il faut pas prendre votre audience pour plus bête qu'elle ne l'est. Et elle se souvient de quoi vous avez parlé il y a 1 an ou il y a 6 mois.
Juste à ce titre-là, on vous mettra en lien de podcast, hein, en note de podcast, un lien vers un article de Thierry Libert intitulé « Slow PR », donc les relations presse longues, on va dire, ou lentes plutôt. C'est très intéressant. Thierry Libert, c'est un expert en gestion de crise. Hein, il est notamment directeur scientifique de l'Observatoire international des crises. Et donc, il travaille sur les thématiques RP de marque. Et allez, je vous cite un petit morceau qui est intéressant. Il dit « La stratégie se transforme en tactique et le plan de communication devient un plan comptable. La réactivité devient le maître mot. Il est important pour une entreprise de convaincre de la solidité et la pérennité de son engagement dans le développement qu'elle a, dans son développement durable, si elle en a un. Lorsqu'elle change d'axe de communication tous les 18 mois, ça ne peut pas marcher. » Effectivement, ça, c'est intéressant parce que le slow content, c'est avoir une réflexion longue durée sur sa production de contenu. On l'a dit, ça n'exclut pas les contenus plus brefs, plus courts, plus éphémères. Mais en tout cas, ça oblige à plonger vers une vision plus longue.
Et ça oblige aussi, comme tu le disais tout à l'heure, à prendre plus de temps pour travailler. Parce que créer des contenus plus longs, créer des contenus plus profonds, ça demande aussi un travail plus long. c'est pas créer un snack content, c'est souvent plus rapide quand même que créer un contenu long. Et au final, alors moi là, je me fie un peu à mon expérience d'utilisateur des réseaux sociaux et à ceux de mes amis, de mon entourage. Au final, on partage beaucoup plus de contenu long les uns avec les autres. On en parle beaucoup plus entre nous que de snack content. Quand on va débattre ou discuter autour de certains sujets ou de certaines choses, on va beaucoup plus parler de contenu long, d'un podcast qu'on a entendu par exemple, et on voit ce format qui revient à la mode, et nous les premiers à le faire et à le dire avec le Super Daily, qu'on croit vraiment au retour du podcast. Mais on voit aussi par exemple sur YouTube des très longues interviews de un artiste ou une personnalité. Des interviews d'une heure d'un journaliste avec une seule personnalité. Et ça faisait des années ça faisait un moment que ça se voyait de moins en moins parce que justement, on préférait soit, alors c'était un contenu un peu long, avoir beaucoup d'invités à l'intérieur, ou alors avoir des toutes petites séquences de 2 ou 3 minutes à la Combini, très rapide. Et en fait, on voit que la télé aussi, elle est influencée par ça, puisqu'à la télévision, on remarque que c'est très rare d'avoir des contenus assez longs, que plus ça allait, plus les contenus étaient de plus en plus courts, plus quand on avait des émissions télé avec des invités, justement, c'était entrecoupé de séquences toutes les 3 minutes avec 2 questions, une question pour l'invité, puis une séquence avec un chroniqueur, puis 2 questions à l'invité, puis une vidéo qu'on va regarder, puis et ça devenait, moi je trouvais que ça devenait aussi insupportable dans le temps d'écoute. Il me faut le temps d'écoute de quelqu'un et c'est insupportable d'entendre quelqu'un parler 1 minute, puis d'être coupé par quelque chose, puis de parler 1 minute. Et voilà, et ça, c'est le retour des formats longs, je trouve, que ce soit en télévision avec des plus longues interviews ou sur YouTube avec des vidéos de longues interviews ou alors avec le podcast aussi. Il y a vraiment un retour de ce contenu-là.
Ça aussi, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a 2 choses hein, dans le mouvement slow content. La première chose, elle concerne la différence entre tactique et stratégie, de dire ma stratégie, elle doit être pensée sur la durée. Et elle doit sans doute reposer sur mes valeurs de marque, mon ADN, le pourquoi, mon why, le fameux why, et la cohérence de marque. Et puis, il y a un deuxième propos du slow content qui est celui du format, effectivement. Et aujourd'hui, en pleine guerre à l'attention, se pose la question de savoir quelle est la place des contenus longs. Hein. On le sait, c'est une problématique parce que, on l'a dit, on est en situation d'infobésité. Le temps d'attention semble de plus en plus réduit. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, le snack content, ce contenu super court, est-ce que en gros je suis obligé de faire 280 signes, des vidéos de 30 secondes pour passer mes messages, ou est-ce que je peux travailler mes messages sur un format plus long?
Eh bien, en plus, moi je suis persuadé que quand on travaille aussi sur des formats plus longs, on pérennise son audience, c'est-à-dire que on propose à son audience quelque chose de plus profond et on va avoir des personnes, des gens qui vont nous suivre et qui vont écouter regarder ce qu'on leur propose ou lire ce qu'on leur propose et qui vont être vraiment intéressés en profondeur parce qu'on fait. Alors que quand on est vraiment que dans le snack content et la petite vidéo image accrocheuse, on va avoir une audience beaucoup plus volatile, je pense, parce que justement, on va les avoir accrochés avec quelque chose d'un peu fun, avec un petit snack content un peu mignon. Et puis en fait, derrière, comme il n'y a rien, les gens repartent, puis reviennent quand ils retombent sur quelque chose de drôle, puis repartent. Et voilà, on a une audience qui est beaucoup plus volatile et qui nous porte beaucoup moins d'intérêt aussi. Quand on leur propose des contenus un petit peu plus longs, on va peut-être mettre plus de temps à construire aussi une audience, mais parce qu'on n'aura pas ce côté un peu buzz du snack content. Mais on va avoir une audience beaucoup plus intéressée en profondeur par ce qu'on propose.
Ouais, moi, je vais faire un peu mon notaire et je vais dire que le slow content, ça a une valeur patrimoniale. Je m'explique. Hein, c'est qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a 2 types de contenus. Tu as ce qu'on pourrait appeler des contenus chauds et des contenus froids. Contenu chaud, en gros, c'est tout ce qui va être vraiment lié à l'actu. Contenu léger,
newsjacking,
voilà, les stories, aussi les formats story, les formats peut-être live, on est dans l'instantanéité, on est dans l'actualité, les événements, tout ce qui est event, etc. Et puis les contenus froids qui, quant à eux, sont ce qu'on pourrait appeler aussi des contenus evergreen, qui ont vocation à vivre plus longtemps et dans lesquels on va avoir davantage d'informations. Ça va être des articles de blog, ça peut être une série de vidéos tuto sur YouTube, ça peut être un podcast, des infographies, etc.
c'est des contenus qui vont être tellement intéressants que même 5 mois plus tard, si quelqu'un le lit, justement, même si ça colle plus à l'actualité tout de suite de son époque à lui, 6 mois plus tard, ça va être intéressant pour lui parce qu'il va pouvoir avoir des informations sur quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois.
Voilà, donc effectivement, ils ont donc une valeur patrimoniale, c'est-à-dire que le budget, l'énergie et le retour sera peut-être plus soutenu parce qu'il faut produire plus de matière, mais par contre, il aura une durée de vie plus longue, donc à partir de là, peut-être que son ROI est plus important. Donc patrimonialement, ça apporte quelque chose à ma marque. À ce sujet, d'ailleurs, il y a un rapport qu'avait fait BuzzSumo en 2018, pareil, on vous mettra le lien, sur les tendances de contenu et qui disait dans ce nouveau monde de saturation de contenu et de partage avec la baisse des partages des liens sortants depuis les réseaux sociaux, les grands vainqueurs en 2018, ce sont les marques qui construisent une forte réputation autour d'un contenu original faisant autorité, et on ne peut faire autorité qu'en produisant un beau contenu, un contenu peut-être plus long format qu'un contenu snack content, quoi.
Oui, on gagne une forme aussi de quand je parlais de pérennisation de l'audience, c'est aussi une forme de respect quand on produit des contenus plus longs. C'est en général plus respecté dans l'inconscient collectif d'avoir des contenus plus travaillés, plus longs, plus profonds que d'avoir des petits snack content un peu funky. Même si c'est pas facile à réaliser, hein, il faut pas non plus dévaloriser complètement le snack content qui est quelque chose de compliqué aussi à réaliser, hein, qui est pas si simple. Pour être juste et pour accrocher, justement, pour être cet hameçon qui va aller chercher de nouvelles audiences. C'est pas si simple, mais dans l'inconscient collectif, on a plus de respect pour un travail plus fouillé, un podcast, un article plus long, etc.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire une marque qui aurait une stratégie éditoriale qui reposerait que sur du snack content. Tu l'as dit, hein, au bout d'un moment, franchement, elle va perdre même ses galons. Hein, petit à petit, c'est une marque qui va perdre en estime de soi, à mon avis, et puis aussi en estime surtout de sa communauté, de son audience, de ses clients. Et j'ai bien aimé le terme hameçon. Je pense que c'est exactement ça, finalement, le snack content, l'usage qu'on doit en avoir.
Oui, exactement. C'est le snack content, ça doit être juste un hameçon qui permet d'accrocher une nouvelle audience qui ne nous connaîtrait pas, qui nous verrait pour la première fois, et qui verrait passer justement un snack content à nous et qui lui attirerait l'œil, qui lui attirerait l'oreille. Qui
va le saisir dans un micro,
voilà,
moment d'attention.
Exactement.
On a déjà parlé de ce sujet des micro-moments.
Exactement.
Pour essayer d'aller le driver vers un contenu long format.
Sauf qu'après, il faut qu'il y ait autre chose pour cette personne. Une fois qu'elle a été attrapée par le snack content, il faut qu'elle puisse se nourrir de quelque chose de plus conséquent. J'ai envie de dire, si... On peut pas l'attirer avec du snack content et le faire rester avec du snack content. Au bout d'un moment, le snack content, on en a tous marre. On n'a pas envie de manger ça tout le temps. On a envie d'avoir quelque chose ou être plus consistant, qui nous élève un petit peu l'esprit, qui nous intéresse, qui va nous apporter des réponses sur des questions qu'on peut se poser. Ça va pas juste être une vidéo fun ou une photo un petit peu fun.
Ouais, et puis pour en revenir à l'aspect patrimonial, nous, il y a quelque chose ici qu'on défend, hein, chez Supernative, c'est celui de créer un vrai lien entre une marque et son écosystème, que ce soit ses clients, ses partenaires, etc. Et ça, c'est quand même très difficile de le faire sur du snack content. Il faut un contenu qui apporte de la valeur de marque, une vraie utilité de marque. Donc, ça implique d'aller produire du contenu de plus ou moins long format. D'ailleurs, la longueur importe peu, mais en tout cas, un contenu qui apporte de la matière. Effectivement, c'est là qu'on crée une vraie relation. C'est pas exclusivement avec du snack content et des jokes sur Twitter.
Bien sûr. Alors, pour prendre un exemple un peu plus précis, moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça pouvait donner du coup sur une plateforme comme Instagram quand on voulait justement revenir un petit peu à un slow content. Alors, je me suis dit, au final, Instagram, c'est la plateforme parfaite pour arriver à avoir une communication dans ces deux temps de communication. Le temps très court, l'instantanéité, et le temps plus long. Et la story permet justement d'avoir cette présence quotidienne, d'avoir cette instantanéité, cette spontanéité, de traiter de tous les sujets qu'on a envie, de montrer les coulisses, de pouvoir être tout le temps présent, tous les jours, dans la vie de notre audience. Parce que c'est l'audience qui va choisir elle-même d'aller voir ou non ce qu'on lui propose. C'est pas Instagram qui va lui imposer. Donc, dans les stories, c'est elle qui va devoir cliquer sur les stories pour aller les voir. Puis après, elles vont défiler. Elle peut les switcher aussi si elle a pas envie de les voir. Enfin voilà, on va pas s'imposer à notre audience en leur proposant énormément de contenu quotidien.
Donc c'est du snack content non invasif, quoi. On pourrait
exactement,
dire.
Ouais. C'est ça. Et il va y avoir le feed dans lequel là, on peut plutôt proposer un contenu un petit peu plus justement épais. Alors vous me direz, oui, mais c'est Instagram, c'est soit des vidéos d'une minute de toute façon, soit des photos. Alors comment tu fais pour faire un contenu un petit peu plus profond ? Bah déjà, sur Instagram, il y a des statuts et les statuts sont quand même assez longs et on peut raconter beaucoup de choses en statut. On peut apporter de l'information.
2200 caractères.
Ouais, voilà, 2200 caractères, c'est quand même pas rien, quoi. C'est certes pas un immense article de blog, hein, mais on peut raconter quelque chose. On peut raconter une histoire, on peut amener des infos. Dans une vidéo d'une minute, on peut aussi raconter beaucoup de choses, même si effectivement, une vidéo d'une minute, ça se rapproche plus d'un snack content que quelque chose de plus profond, mais on a le temps de raconter des choses. En tout cas, en statut, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez utilisé sur Instagram, qui a un peu sous-estimé les blogs de statut, ouais, qui vont avec les images, avec les photos. Et je pense qu'on peut justement avoir cette double communication dans deux temps différents, avec les stories pour le quotidien et les posts, et peut-être moins de posts du coup, peut-être 2, 3, 4, allez, 4 posts par semaine, avec une vraie histoire, une vraie valeur ajoutée, et ne pas parler pour rien. Parce qu'aussi sur Instagram, on a envie d'être présent un peu tous les jours, parce qu'on sait que ça fait du reach, que ça peut nous amener des chiffres intéressants, ramener à une marque aussi, quand on est une agence par exemple. Mais sauf que... quoi ça sert de poster tous les jours si c'est pour rien avoir à raconter et rien avoir à dire ?
Peut-être aussi que pour reparler d'Instagram, hein, pour continuer sur Instagram, tu ne parles pas d'IGTV, mais peut-être que le vrai temps long,
j'allais en parler aussi,
le vrai contenu temps long dans Instagram,
vidéo, ouais,
en vidéo en tout cas, il est peut-être sur IGTV. Hein, c'est peut-être là. Si c'est votre canal de distribution de contenu, là, vous avez la vraie opportunité à construire je ne me rappelle plus, je crois que c'est jusqu'à une heure, hein, de contenu. Donc voilà.
Ouais, non, mais c'est sûr qu'il faut qu'on. C'est sûr qu'il y a aussi le IGTV pour pouvoir communiquer justement sur un temps long, comme on le disait.
Voilà, juste pour terminer ce sujet slow content, je voudrais faire une analogie comptable. Alors là, j'ai une pensée pour notre comptable, hein, Jérôme, si tu nous écoutes. Pensé à toi en préparant ce podcast. J'ai envie de dire que le snack content, en fait, c'est un peu votre compte de résultat. Alors, ceux qui font de la compta un peu voient ce que je veux dire. Et puis, le slow content, c'est davantage votre bilan. Donc, d'un côté, tu as un peu tout ce qui est trésorerie. Et puis de l'autre côté, tu as tout ce qui est patrimoine. Et en fait, c'est le mix des deux qui permet d'avoir quelque chose de sain. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on appelle peut-être à avoir un arbitrage pour 2019. Tiens, c'est nos bonnes résolutions d'avoir plus d'arbitrage entre contenu consommable, qui ont vocation à servir de hook, hein, d'hameçon, et puis contenu de communication longue, qui eux ont vocation à construire la marque sur la durée.
Oui, oui, c'est clair. Et moi, je finirai juste sur une petite chose, c'est que pour ceux qui boivent leur café à emporter comme moi dans une tasse en verre, sachez aussi que c'est plus écologique de moins poster sur les réseaux sociaux.
Oh, c'était la pastille verte d'Adjan Chélil. Écoutez, on espère que ce contenu sur le slow content vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir en papoter avec nous sur les réseaux sociaux.
@supernatif, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous laisser des messages, une note. On en est très friands d'aller regarder vos petits commentaires sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou même Spotify.
Merci à vous tous. On vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode du Super Daily.
Merci beaucoup.
Salut.
Ciao.